Une transition pour ce podcast avec une nouvelle voix, la mienne, au micro. Donc un grand merci à Ludo pour avoir prêté sa voix et son talent à ce podcast pendant les 3 dernières années. J'ai le plaisir de reprendre le flambeau. Pour ceux qui nous écoutent régulièrement, je suis déjà intervenu à plusieurs reprises, donc là je change. J'interview maintenant, je suis Arnaud Tizi, je suis directeur général adjoint d'Altaviaora. Je suis un grand amoureux du retail, ça tombe bien vu la thématique. Et donc je suis votre nouvel animateur de ce podcast, Retail Sessions. Je vous rappelle, dédié aux retail addicts, ceux qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et aussi d'anticiper les tendances de demain. Donc si vous aimez ce podcast, le premier pour ma part, qui décrypte les marques et les enseignes qui font le retail, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez des petites étoiles dans les notes. Aujourd'hui, on va parler de la NRF 2024. La NRF 2024, on y était. Le fameux Retail Big Show organisé par la NRF à New York, le rendez-vous annuel des professionnels du commerce, l'occasion d'y repérer les dernières tendances, les solutions les plus innovantes du commerce américain et aussi de visiter des concepts new-yorkais inspirants. L'année dernière, j'avais la chance d'y aller en 2023 et l'analyse qu'on avait pu en tirer était sur le resilient retail qui était capable de s'adapter et d'absorber ce qu'on avait connu les 3 C, la crise, le Covid et les conflits. Et cette année, en 2024, il est peu de dire qu'il y avait un grand écart entre les conférences où la part belle était donnée à l'IA et l'IA générative, c'est le buzzword 2024 en France et aux US, mais aussi les magasins où la technologie, elle, semblait s'effacer pour un certain retour aux basiques. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce foisonnement d'innovation technologique? Quelles startups prometteuses suivent? Quels magasins, les nouveaux ou les magasins existants, sont exemplaires? Et bien, c'est les questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Piot, qui est directrice générale d'Altavia Open Lab, notre business unit qui est dédié à l'innovation et qui a été notre émissaire spécial lors de cette NRF 2024. Donc, let's go!
Comment ça, mon pote?
Bien évidemment!
Comment tu dis
carré? Oh, le gros combat.
Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver?
Qu'est-ce que c'est que ce carabine surtout?
Valérie, bonjour!
Bonjour.
Est-ce que, pour garder les traditions, tu peux te présenter en quelques mots, d'où viens-tu et surtout, pourquoi les gens doivent te croire sur parole?
Ah, alors, sans doute que l'enjeu n'est pas de me croire sur parole, mais plutôt d'écouter ce que je vais vous raconter pour collecter des insights et vous forger vous-même vos propres convictions. Donc moi, j'ai un passé de 26 ans d'expérience en agence de communication 360, 15 en direction d'agence, avec un focus sur les comptes retail depuis aussi à peu près une quinzaine d'années. Depuis 8 ans, j'ai rejoint le groupe Altavia, donc en tant que directrice générale d'une agence, puis en charge de l'innovation, donc depuis un an et demi. Et j'ai toujours été passionnée par la technologie, parce que je trouve la technologie une super belle opportunité pour réinventer notre métier, réinventer nos manières de faire et surtout proposer une nouvelle façon d'appréhender les relations entre les marques et les clients. Et donc, je me focalise depuis un petit peu plus d'un an sur l'intelligence artificielle. Donc, on va pas mal en parler en débrief de la NRF parce que j'y suis allée pour ça, pour voir comment les Américains et les retailers américains avaient pris le sujet de l'IA dans leur parcours client, notamment. Mais je vais plutôt aborder l'IA sous un angle bénéfice, use case, et pas très tech, parce que je ne suis pas quelqu'un de tech. Donc voilà, j'espère que mon débrief sur l'IA et sur la NRF vous intéressera. En tout cas, je serai à votre disposition après ce podcast pour répondre à vos questions éventuelles.
C'est super. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, sur ce millésime 2024, est-ce que, selon toi, c'est quoi tes 3 mots-clés? Est-ce que tu retiens de cette édition qui avait l'air assez incroyable?
Alors, c'est dur de synthétiser en 3 mots-clés. Forcément, il y en a un, je dirais, très positif, puisque c'est le dynamisme ou la dynamique du retail aux États-Unis, avec un vent de positivisme et d'optimisme sur l'écosystème retail. Donc, ça fait plaisir à voir, surtout quand on a la chance de travailler pour des clients retailers en France, notamment. Deuxième mot, ça va être l'IA. Forcément, on va être IA et data puisque c'est étroitement lié. Donc l'IA, je dirais plutôt les IA parce qu'on a parlé beaucoup d'IA générative, mais ce buzz autour de l'IA générative a permis de renforcer tous les applicatifs déjà boostés à l'IA prédictive, donc au machine learning, et remettre en avant ces applications comme vraiment les fers de lance du futur du retail. Et puis le troisième mot, je dirais people business, parce que vous allez le voir, le magasin physique Brick and Mortar est bien au cœur de l'écosystème retail, et il est au cœur parce que il y a des humains et que l'enjeu, c'est de créer du lien entre humains, entre clients et personnel de ces magasins.
Du dynamisme, de l'IA, du business people, les trois mots-clés de cette édition 2024. Le salon en lui-même, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés? Parce que c'est souvent un moment important pour les retailers d'annoncer un certain nombre de chiffres sur le marché américain. Tu parlais de dynamisme et de la résilience qui était affichée ces dernières années. Est-ce que c'est toujours d'actualité? A priori, il y a quand même le record de tous les temps de nombre de magasins aux US, donc le retail apocalypse qui était la thématique il y a quelques années semble quand même définitivement loin.
Ouais, c'est pas faux. Le commerce américain se porte bien, plus 5,3% en 2023, avec des ventes records à Noël et pendant le Black Friday. Donc des retailers américains plutôt contents de leur année 2023. Et j'ai envie de dire un écosystème retail qui se reconstruit autour du magasin. Et ça, ça a été réaffirmé par l'ensemble des témoignages pendant la NRF, mais également ça s'est ressenti au travers de nos visites de magasins dans New York. Le magasin qui génère toujours 80% des revenus du retail, alors plus ou moins bien évidemment selon les catégories de produits, mais ça reste le point de contact de conversion majeur pour l'écosystème commerce. Et qui a aujourd'hui une mission extrêmement claire et clarifiée. On n'imagine plus quel rôle il doit tenir. L'enjeu du magasin, c'est le lien humain et l'expérience de marque, ou ce que vont appeler les Américains le DIVA, donc DIVA pour Discovery, pour Inspiration, Associates et Vibes. Donc tout est dit dans cet acronyme, avec autour du magasin des technologies qui vont venir booster la performance du commerce, avant tout du e-commerce, donc booster la conversion en ligne, et toutes les solutions ou une grosse partie des solutions d'IA notamment sont là pour ça, pour transformer beaucoup plus en e-commerce, mais également pour donner un rôle augmenté aux people dans les magasins avec des technologies qui vont leur permettre de passer plus de temps avec leurs clients, donc leur faire gagner du temps sur des tâches pour pouvoir passer plus de temps avec leurs clients. Également la performance de la supply, bien évidemment, et de l'omnicanal de manière globale, donc des techs au service de la performance. Et puis, la troisième tendance, c'est les nouveaux leviers économique du retail, avec notamment le retail média. On en parlera tout à l'heure, gros levier business, en tout cas de revenus pour les retailers américains, et également pour les plus gros retailers, j'ai envie de dire, une nouvelle source de médias qui est la retail tech, parce que bon nombre d'entre eux se transforment en éditeurs de solutions pour les autres retailers. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi à suivre.
Super, donc un marché à plus 5,5, des temps forts qui se maintiennent et un écosystème qui se reconstruit autour du magasin et des nouveaux leviers économiques. Super Valérie, merci. Donc l'IA, donc, c'était donc la grosse star de cette édition. Est-ce que tu as ressenti un écart entre les US et l'Europe? Est-ce que c'est aussi important que pressenti? Et selon toi, c'est quoi les meilleurs usages des retailers américains basés sur l'IA, IA générative ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que tu retiens?
Alors c'est vrai que l'IA, c'était plus qu'un buzzword, l'IA était présente partout dans le salon, sur tous les stands. On a l'impression même que tous les exposants avaient rajouté un petit .AI ou Powered by AI pour être dans le ton. Toutes les conférences évoquaient les IA de manière globale ou spécifique. Et alors aux US, j'ai envie de dire que les retailers américains sont très pragmatiques. Ils ont bien compris que l'IA était un game changer pour eux, et donc leur enjeu, c'est de définir une roadmap et d'aller vite, de tester et de déployer à partir du moment où les tests sont convaincants. Donc je pense qu'ils se posent un petit peu moins de questions qu'en France, où on va ne pas savoir par où commencer, ou se poser la question de est-ce que c'est bien sûr, ou voir le côté négatif ou les risques que présente l'IA, notamment l'IA générative, hein, qui sont réels et à prendre en compte, mais néanmoins, on peut malgré tout avancer et déployer des applications qui sont déjà extrêmement performantes avec les solutions d'aujourd'hui. Et il y a eu bon nombre de témoignages de Chief AI, de gros retailers comme Kroger, comme Tesco, comme Canadian Tire, comme Walmart bien sûr, qui ont partagé leur use case. Et en fait, toutes les interventions valorisaient certains cas d'usage que je peux classer en trois catégories. La première catégorie, c'est l'expérience client. Comment l'IA va venir augmenter et améliorer l'expérience client, qu'elle soit en ligne, donc avec notamment des moteurs de recherche enrichis à l'IA pour aider les shoppers à trouver plus facilement le produit qui leur correspond, de manière personnalisée aussi, des moteurs de recherche qui amènent une personnalisation de l'offre. L'enrichissement des catalogues produits en ligne, avec des avis clients synthétisés par l'IA, avec énormément d'images et de contenus générés par l'IA qui viennent nourrir ces fiches produits et qui permettent de se projeter un peu mieux dans le cadre de ces achats. Bien évidemment, les bots conversationnels qui permettent de créer un lien, alors pas forcément humain, mais néanmoins un lien pendant l'achat en ligne et qui permet d'accompagner le consommateur sur ses achats, et le service client, donc où là, le chatbot remplace ou complète, on va dire, les call centers et qui permet d'offrir un service H24, 7 jours sur 7, aux clients qui ont des questions. Ça, c'est la première grosse catégorie de cas d'usage. Tous les retailers américains ont déjà testé, voire ont déployé ces cas d'usage-là avec des résultats et des mesures de performance plutôt très, très positifs. Deuxième cas d'usage, c'est le personnel. La productivité, comment l'IA augmente la productivité du personnel, que ça soit le personnel, les collaborateurs au niveau du siège, du corporate, mais également, bien évidemment, des collaborateurs sur le terrain. On va parler d'applications RH, donc des chatbots qui répondent à l'ensemble des questions RH des collaborateurs, mais également de toutes les solutions d'IA qui vont permettre de simplifier les routines administratives de tout à chacun, à savoir rédiger des emails, synthétiser des réunions de manière automatisée. Et pour les collaborateurs terrain, on va parler d'applications autour du task management, donc de la gestion de la priorité des tâches à faire par le personnel en magasin, l'organisation des ressources, la gestion des plannings générés par l'IA pour justement avoir plus de temps avec leurs clients. Puis la troisième grosse catégorie, c'est l'IA qui existait déjà, hein, c'est pas l'IA générative, là on parle vraiment de plutôt l'IA machine learning prédictive, c'est toute la supply qui va bénéficier de l'IA pour gérer l'offre et l'assortiment, gérer la stratégie prix et la stratégie promotionnelle, ou gérer même la stratégie d'achat pour optimiser, diminuer les stocks et optimiser la conversion et les ventes.
Ok, donc de l'IA pour trois typologies de configuration, l'expérience client, améliorer la productivité et tout ce qui peut concerner la supply chain.
Exactement.
Donc finalement, dans cette continuité, cette édition 2024 a confirmé quelque chose qu'on pressentait, mais qui a l'air de se généraliser, la plateformisation des solutions techno, avec d'un côté les mastodontes, les Google, Shopify, Microsoft, pour ne citer que les plus gros, qui côtoient à côté des startups qui ont émergé, qui ont poussé en quelques mois. Est-ce que tu confirmes ça? Puis est-ce que tu aurais quelques pépites tech que tu as repérées, que tu aurais envie de nous dévoiler?
Oui, alors moi j'ai un biais parce que j'allais chercher des solutions IA pour enrichir notre librairie de services intelligence artificielle que nous allons pouvoir proposer chez Altavia à nos clients. Je vais avoir un gros focus sur l'IA. Effectivement, les mastodontes étaient bien présents. Eux présentent des écosystèmes complets de services, on va dire, pour un commerce omnicanal boosté à l'intelligence artificielle, et viennent se pluguer dans ces écosystèmes des startups, des solutions beaucoup plus niches sur des fonctionnalités plus précises, avec pas mal de solutions intéressantes, notamment sur le content, donc la génération de contenu grâce à l'IA. Je peux citer Typeface, qui est une super solution pour générer du contenu en respectant la tonalité et le ton de la main marque, ses guidelines, etc., et qui est franchement très efficace pour l'avoir testé, ou une société ou une start-up française qui s'appelle Velou, qui génère de manière automatisée des pages produits pour le e-commerce, notamment sur le secteur de la mode et du textile. Et puis, une troisième start-up, toujours sur la partie contenu, qui s'appelle Photoroom, qui est aussi une solution française pour tout ce qui est détourage photo et enrichissement des contenus de manière automatisée, qui vient d'ailleurs de faire une grosse levée de fonds et qui confirme sa pertinence et performance. Ensuite, il y avait beaucoup de solutions de bots conversationnels, donc de briques toutes faites qu'on vient habiller et qu'on vient entraîner sur nos propres data pour créer des bots spécifiques. Je peux citer Vernic, Corée d'OTI, ou une start-up, quoi, c'est plus qu'une start-up, c'est une grosse licorne israélienne, AI21 Labs, qui, au-delà des applicatifs de chatbot, de search enrichi à l'IA, est un véritable LLM qui a l'air très puissant, performant, et qu'on est en train de tester du côté d'Altavia. Voilà, et donc, l'enjeu, c'était de collecter ces solutions, mais maintenant, mon objectif, moi, c'est de les tester, parce qu'il y avait beaucoup de start-up qui dataient, qui s'étaient créées il y a moins de 6 mois, donc on pouvait douter a priori de leur performance à la fois technique ou en termes d'usage. Donc, une fois collectées toutes ces start-up, l'objectif, c'est bien évidemment de les tester, de valider leur performance, de checker la sécurité des data, checker aussi leurs conditions en général, avant de les référencer et pouvoir les recommander à nos clients. Donc, il y a un peu de tri à faire que je n'ai pas encore finalisé.
En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, et si vous avez envie de tester avec nous ces startups autour de l'IA, faites-nous signe, vous saurez où nous retrouver. Au-delà des startups et de l'IA, l'autre start, tu l'as abordé tout à l'heure, c'était le retail média. Il y a une étude qui est ressortie là récemment de eMarketer qui a revu encore à la hausse des prévisions qui étaient déjà extrêmement hautes. Et juste sur l'année 2024, aux US, le marché pourrait représenter, accrochez-vous, 60 milliards de dollars d'investissement publicitaire. Valérie, quelle est ton analyse justement sur cette tendance lourde? Est-ce qu'elle a été confirmée par ce que tu as pu voir sur place?
Carrément, parce qu'effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, j'en ai un qui m'a complètement halluciné, c'est effectivement au-delà des 60 milliards de dollars en 2024, hein, pour rappel, on vient de valider 1 milliard d'investissements retail média en France pour 2023 et on est déjà très content de la progression de la croissance de ce média-là. C'est la prévision pour les US en 2027 d'effectivement plus de 100 milliards de dollars d'investissements dans le retail média. Ça devient clairement un levier économique pour les retailers, une source de revenus additionnelle, avec plusieurs étapes. Et c'est là où on va pouvoir aller chercher des insights pour le déploiement et le développement du retail média en France, parce que clairement les Américains sont en avance sur la France et les pays d'Europe sur ce sujet-là. On commence comme en tant que retailer, à monétiser son écosystème en propre et notamment e-commerce avec ce qu'on appelle le e-retail média. Ensuite, on passe à l'extension d'audience en partageant sa data first party avec des partenariats sur d'autres médias digitaux. C'est ce que vient de faire, par exemple, Carrefour en France avec Netflix. Mais aux US, tous les retailers ont déjà lié des partenariats avec énormément de médias digitaux sur ce levier-là. Et le troisième levier, c'est le retail media in-store. Et ça, j'étais très contente de voir que les Américains pariaient sur le magasin en termes de source de monétisation d'espace, mais également de conversion, puisqu'on se rappelle, hein, 80% de conversion dans le magasin. Donc, il était quand même assez hallucinant de ne pas envisager le retail media sous son angle omnicanal. C'est chose faite aux États-Unis. Et clairement, comment ils le valorisent, ils disent que l'audience d'un magasin ou des magasins ou d'une enseigne comme Walmart est à la hauteur des audiences de la télévision, voire plus importante. Et surtout, ce qui est à noter, c'est que quand j'investis chez Walmart, en termes de taux de conversion, je suis bien plus forte que si j'investis en télé. Donc, l'investissement retail média aux US va dépasser l'investissement télé dès l'année prochaine. Donc, il est clair que c'est un vrai levier de croissance, que le média magasin est un vrai levier de croissance. Alors, quand on parle de Retail Media Magazine aux US, on parle d'écran. On parle d'écran qu'on va pouvoir retrouver partout. Alors, pas forcément dans les magasins de Manhattan, mais plutôt dans les grandes surfaces alimentaires ou grandes surfaces de bricolage aux alentours du centre-ville, avec des écrans dans les caddies, des écrans dans les portes réfrigérées, des frigos, des rayons réfrigérés, des écrans en entrée de magasin, bien évidemment, en sortie de caisse, des écrans sur les barrettes de linéaire. Donc, il y a de l'écran partout qui permet, bien évidemment, de mesurer l'audience et tracer la conversion.
Super. Je retiens quand même que l'audience de Walmart est en train de dépasser celle des audiences télé, ce qui est quand même, si on se projette en France, une vraie révolution. À la fin, tu as pas mal parlé du magasin. Justement, je te propose qu'on enchaîne sur la suite. Et la suite, c'est souvent la virée à la NRF et aussi l'occasion de chausser ses baskets et de descendre dans les rues new-yorkaises. Et on va voir si ses promesses se concrétisent sur le terrain. Donc, dans le cadre de tes visites magasins, commençons peut-être par l'alimentaire et les GSA. On parlait de Walmart juste avant. J'ai notamment lu que le nouveau magasin Wegman semble avoir fait l'unanimité. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ce concept? Est-ce qu'il a réussi à dépasser ce qu'on généralement on considère le maître en la matière, les Whole Food Market?
Eh ben oui, et effectivement, Wegman, c'était une super surprise parce que j'avais déjà visité des magasins Wegman en banlieue, en périphérie. J'avais pas été bluffée par l'expérience d'achat proposée, alors que ce premier magasin localisé à Manhattan pour cette enseigne est vraiment waouh. Alors pourquoi il est waouh? Déjà parce que on rentre dans un magasin 100% humain. Il faut savoir qu'il y a 600 collaborateurs qui ont été embauché à l'ouverture de ce magasin-là, donc c'est un magasin de 8000 mètres carrés. Et quand on entre dans le magasin, on voit les people, parce que on les voit, puisque le premier étage est dédié et plus à un food hall où on va retrouver toutes les cuisines du monde qui sont cuisinées devant nous, avec beaucoup de personnel qui sont là pour nous donner envie d'acheter et qui sont là aussi pour faire un peu une cuisine spectacle. Tout a l'air très très appétissant, c'est très chaleureux, univers bois, vraiment sympa. Et quand on descend à l'étage, on va retrouver les produits frais. Et il faut savoir que ce magasin est dédié aux frais. Je crois qu'il y a 80% de l'assortiment qui est misé sur le frais, donc ce qui est complètement anormal et inhabituel par rapport à un magasin alimentaire. Et c'est chouette. Alors le frais, c'est un peu, moi j'ai reconnu un peu du grand frais, hein, pour être un peu chauvine, chez Wegman au niveau -1, avec pas trop de produits de saison, hein, parce que j'ai vu des montagnes de fraises en janvier. Bon, ils sont pas complètement dans une approche alimentaire locale et de saison, mais néanmoins tout donnait très très envie. Une signalétique extrêmement claire, la valorisation de tout leur personnel, donc du boucher avec son curriculum vitae affiché au niveau de la boucherie. Les collaborateurs et le personnel valorisés tout le temps avec vraiment l'impression que Wegman remplit sa promesse sur chaque point de contact de son magasin. Et sa promesse, c'est « Every day, you get our best ». Donc, our best in terms of food, in terms of cooking. Et on a vraiment, vraiment cette impression-là quand on traverse le magasin. Ce qui était aussi très intéressant dans les linéaires, mais là, il faudrait que je vous montre des photos, ce qui est un peu dommage sur un podcast, c'est pas possible, c'est la manière dont le cross-sell est travaillé. Un rêve pour nous qui travaillons beaucoup sur l'activation commerciale, d'associer des produits les uns avec les autres pour augmenter le panier d'achat. Ce qui nous a surpris, c'est aussi peu de travail sur le prix, pas du tout de promo. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est au cœur de Manhattan et que l'environnement, on va dire, est plutôt riche? Mais alors, la promo, elle est nulle part. Le prix, il est tout petit, il est sur, même pas sur des étiquettes électroniques. Donc, un peu comme Trader Joe, où on revient au traditionnel magasin. Et puis, à la fin de l'expérience, le self-checkout, où là, je crois qu'il y avait 37 caisses en self-checkout et 6 caisses avec du people. Donc là, on voit bien que l'idée, c'est en revanche d'être très efficace sur la sortie de caisse. Voilà. Donc une belle expérience. Et par rapport à Whole Foods, tu me demandais, ouais, j'ai trouvé que Wegmans avait dépassé l'expérience Whole Foods parce que on est retourné dans des magasins Whole Foods qui nous ont paru froids, peu humains, peu humanisés, avec un peu trop de promos du coup, donc pas du tout la même expérience, alors que ils sont côte à côte, hein, les Whole Foods de Manhattan, ils s'adressent à la même population. Donc autant ils avaient pris de l'avance sur le commerce alimentaire il y a quelques années, autant là Wegman effectivement a beau jeu dans Manhattan.
Pour ceux qui ne connaissent pas Wegman, c'est une des enseignes les plus stupéfiantes dans le sens qu'ils arrivent à avoir des communautés de fans, de clients, ambassadeurs et de personnel ambassadeur qui est totalement dingue dans cette enseigne et c'est ce qui fait sa particularité. Au-delà de la GSA, il y a des magasins spécialisés qui t'ont marqué cette année. C'était plutôt les concessions automobiles. On parle de Lucide, on parle de Fisker. Enfin, tu vas nous en parler beaucoup mieux que moi. Dis-nous pourquoi. Est-ce que c'est les services proposés, la qualité de l'accueil, l'humain tel qu'on pouvait le voir jusque-là ou est-ce qu'il y a d'autres choses, la démarche commerciale, comment ça se passe?
Alors, précision, ce ne sont pas des concessions automobiles, ce sont des showrooms de véhicules électriques. Donc, on parle des EV cars, donc avec les marques effectivement américaines comme Lucid ou Fisker. Il y avait évidemment Tesla, mais également Genesis, qui est la marque de véhicules électriques de Hyundai. Alors là, ce qui est assez intéressant, déjà, tous ces showrooms sont dans le même quartier de New York, à Meatpacking. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'ils réinventent totalement le parcours client. Pourquoi ? Parce que dans ces showrooms, on rencontre des gens, des coachs, des ambassadeurs de marque qui vont nous faire vivre une expérience, l'expérience de la voiture électrique. Ils vont nous expliquer technologiquement en quoi ces modèles sont performants, vont nous faire découvrir, nous faire bien évidemment tester les véhicules électriques, vont nous faire découvrir l'amplitude de la manière dont on peut customiser son véhicule. Donc, c'est une véritable immersion dans la marque. Mais en revanche, il n'y a aucune vente. C'est-à-dire qu'on arrive dans ces showrooms, on a un petit panneau en disant « Nos collaborateurs ne sont pas habilités à vous parler de prix et à vous vendre un véhicule. Vous ne venez pas pour acheter. » Donc, ce qui est assez surprenant quand je me rends dans un showroom, quel qu'il soit. Donc, pas de vente, pas de négo. Le prix est un sujet tabou. On a eu beau demander, parce qu'on ne connaissait pas forcément ces marques-là, ils nous ont dit, si vous voulez avoir des informations sur le prix, si vous êtes intéressé pour acheter, vous allez sur le site, donc c'est du D2C, c'est du commerce en ligne. Vous allez sur le site, vous verrez, c'est un tarif unique. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site pour vous accompagner dans votre achat avec toutes les conditions et facilités de paiement que vous voudrez bien contractualiser avec nous. Vous pourrez bien évidemment contacter un coach pour vous aider dans votre achat, mais ici, on vous fait vivre une expérience de marque. Et c'était d'autant plus valorisant pour, par exemple, la marque Genesis de Hyundai, qui a créé un showroom immense où il y a 4-5 modèles de voitures maximum, qui sont en plus des voitures qui ont été habillées par des artistes américains, donc qui sont des voitures magnifiques. Et surtout, dans le showroom, il y a un restaurant coréen pour découvrir la culture coréenne. Des cérémonies du thé auxquelles on peut être invité, auxquelles on peut s'inscrire pour vivre un moment de la culture coréenne et une librairie de livres coréens. Donc, on voit bien que le sujet, c'est vraiment non pas d'acheter, mais de découvrir la marque, de s'immerger dans sa culture, de l'appréhender et ensuite, si on est intéressé, ben on va en ligne. Donc oui, effectivement, un parcours client un peu réinventé.
Hyper intéressant et j'adore cette idée d'une marque qui finalement fait découvrir ses valeurs dans le cadre de son magasin. Allez, une petite dernière question, Flash, parce que nous, on aime bien les OCNI, les objets commerciaux non identifiés, c'est-à-dire les petites pépites qui sortent des retail tours traditionnels. Allez, donne-nous juste un pour nous donner envie de venir avec toi l'année prochaine à New York.
Ouais, j'en ai plein. Juste un. Alors, je vais parler du concept Pop-up Grocer. Pop-up Grocer, c'est un magasin, quoi, c'est un e-commerce au départ, qui souhaite réinventer le shopping pour les clients curieux, pour les clients qui souhaitent consommer responsable et pour les clients qui ont envie de découvrir des nouveaux produits avant tout. Donc, c'est vraiment un shopping découverte. On y va pour découvrir. Et pop-up grosseur faisait des pop-up stores dans le monde brick and mortar, et là vient d'ouvrir son premier magasin pérenne Verso. Et c'est un magasin complètement hétéroclite, avec à la fois de l'alimentaire, des cosmétos, des produits d'hygiène, avec des packaging incroyables. Donc vraiment, c'était une super source de veille pour des packaging très innovants, très bien réalisés, avec des produits a priori responsables. Un café qui plus est au cœur du magasin pour un moment et passer un moment de convivialité. Donc un concept intéressant, donc un pure player qui arrive dans le monde physique avec une approche, mais dès le départ, avec une ADN vraiment pour contenter la curiosité des clients.
Super, merci, tu m'as fait voyager, je m'imagine, j'ai plein d'images dans la tête. J'espère que nos auditeurs aussi. Bon, pour ceux que ça intéresse, c'est vrai que c'est dur de faire voyager et imaginer des magasins sur un podcast. On peut tout à fait organiser des restitutions face à face sous forme de webinaire pour qu'on mette des images sur ces beaux textes. Ça sera possible avec Valérie ou les autres experts d'Altavia. Il suffit juste de nous faire un petit message sur les réseaux, sur LinkedIn, Altavia Aura, ou alors en direct sur mon compte Arnaud Tizi, T-H-I-Z-Y, et on organise cela sans problème. Et dernière petite question avant de se quitter. Si demain tu devais inviter un expert sur ce podcast, tu dirais qui ? Quelqu'un qui est passionnant et passionné du retail ?
Ah, moi, j'inviterais bien, alors j'ai pas un nom, mais j'inviterais bien des précurseurs du retail français qui intègrent les technologies de manière intelligente au service de l'expérience client. Alors, on peut parler des gros comme les Carrefour, hein, où c'est vraiment toujours intéressant d'aller chercher l'inspiration chez des retailers qui ont les moyens, qui ont mis en place et mis en œuvre une stratégie tech au service de l'expérience client. Mais on peut aussi trouver des plus petits qui s'y intéressent, comme des jouets clubs ou autres enseignes. Donc, je pense qu'il y a pléthore d'acteurs à interviewer pour justement, via un monde de transformation du retail, et c'est passionnant pour avoir des témoignages qui peuvent intéresser l'audience.
Allez, challenge accepté, on va essayer de les avoir à notre micro bientôt. Et bien, merci beaucoup.
Je peux vous aider.
Merci Valérie, merci à tous. Ce podcast a été créé par Altavia Aura et produit avec la société Little Bird. Merci JS, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des sessions retail ou des sessions digitales. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Comment ça